Et ça sera à la fois en matière de présentation et de, je vais me mettre en mode, pardon, et d'introduction, j'avais commencé par faire le travail que nous venons de faire, c'est-à-dire à partir du questionnaire, voir un peu ce que vous dites de la pratique de l'oral. Et ce qui me frappe, c'est qu'on voit bien qu'il y a une fragilité et une insécurité qui sont une fragilité et une insécurité professionnelle face à l'oral. Elle est notable. Si vous êtes un peu, si vous avez parcouru ou en tout cas entrevu le dernier numéro du Français aujourd'hui, donc de décembre 2016, l'oral en question, il est noté deux choses qui m'ont intéressé dans la synthèse que fait Claudine Garcia de Banque. La première, c'est que c'est en temps de crise de la société française que la question de l'oral se pose. Donc, vous voyez, mai 68. Immédiatement derrière, 79 et surtout en 72, la question de la didactique de l'oral arrive. 2017, voyez un petit peu ce qui se passe dans notre pays en ce moment, question de l'oral se repose. Alors évidemment, vous pourriez me répondre non, à l'école maternelle, c'est une constante depuis déjà une quinzaine d'années, mais comprenez bien que derrière cette constante, il y a aussi cette idée d'un état particulier de la société qui appellerait une réponse particulière de l'école par rapport à la question de l'oral. Deuxième remarque faite par Claudine Garcia de Banque. La première, elle cite Elisabeth Nonon, qui elle-même reprend des choses de Chevalier. La deuxième remarque, c'est la didactique. Les recherches en didactique de l'oral sont des recherches en éclipse. D'accord ? C'est-à-dire, là encore, c'est pas une constante, mais ça revient sans qu'on sache vraiment toujours exactement pourquoi. Alors, moi, précisément, en tant que maître de conf en sciences du langage, mais surtout en tant que formateur SP à l'université de Montpellier, mon problème, c'est d'abord un problème de formateur, c'est-à-dire comment j'arrive avec un volume d'heures réduit, M2 surtout 40 heures en français, pour couvrir la totalité des problématiques de l'enseignement du français pour les trois cycles. Comment j'arrive à construire un début de formation à peu près cohérent, ce début et la formation, j'espère, qui engage les futurs maîtres à une réflexion sur l'oral dans leur classe. Ça, c'est ma question de fond. D'accord ? Quand je lis ce que vous proposez, on voit bien qu'il faut toujours remonter à cette idée. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Vous avez souvent utilisé le mot « langage » et vous ne l'avez pas mis au pluriel, alors même que le programme de l'école maternelle, le nouveau, là, le dernier, insiste bien sur le pluriel du mot « langage ». Vous pourriez me répondre, oui, mais on le sait, parce que déjà en 95, le mot était au pluriel. Puis le pluriel a disparu. Il est revenu, et aujourd'hui, on l'a de nouveau. Hein, comme si cette question de l'oral, déclinée sous l'enveloppe langage, impliquait tout de même de s'intéresser à ce qu'on appelle la plurisémioticité des langages. Hein, le corps, la voix, en pouvant les distinguer. Hein, lorsqu'un petit en maternelle vous répond et croise intensément les doigts, comme j'ai là sur une vidéo, ou alors répond en bougeant droite, gauche, gauche, droite, ou sans pouvoir stabiliser ses jambes, il y a quelque chose de l'oral qui passe par le corps et qui me dit qu'il est en difficulté, qu'il essaie de lever un certain nombre d'inhibitions. Et là se pose la question du temps que vous allez lui laisser, puisque la notion de temps est remontée, du temps que vous allez lui laisser pour éviter soit une trop grande souffrance, parce que vous ressentez cette souffrance, cette difficulté à parler, soit au contraire parce que vous voulez qu'il dépasse cette inhibition et que malgré cette frontière corporelle d'inquiétude, il puisse continuer à produire un énoncé. Vous voyez comment les choses se passent. Donc langage, langue. Et derrière aussi un mot qui n'apparaît pas trop dans le questionnaire, qui est la notion de parole. N'oubliez pas qu'en bon saussurien, quand on remonte à l'origine, il y a à travers la notion de langage la faculté de s'exprimer, quelle que soit la manière. Il y a derrière la langue un produit social, historiquement ancré dans une ère géographique, une ère accentuelle, une ère régionale, une ère aussi discursive. On ne parle pas à l'école comme on parle à la maison. Et puis il y a la parole, c'est-à-dire l'individualisation de la langue et des modalités d'expression. Et vous voyez que c'est, ne serait-ce que ça, ça oblige à dire, bon, enseigner l'oral, c'est délicat parce qu'il faut pouvoir travailler sur les trois niveaux. Donner du temps et des possibilités d'expression, s'interroger à la construction du rapport à la langue, et enfin, développer la prise de parole, qu'on appelle la prise de parole. j'y vais, je parle, je m'y mets. Bien. Deuxième point, vous insistez sur les compétences langagières. Et j'ai trouvé, hein, quelqu'un a fait le récapitulatif, voilà, on a comme compétence, l'élève doit être capable de raconter, de décrire, d'évoquer, d'expliquer, de questionner, de proposer des solutions, de discuter un point de vue. Bon, il faut, je sais pas, 25, 30 ans pour y parvenir à gérer ses compétences. Vous voyez bien qu'entre Mélenchon... Hein, de pape, hein, et puis un autre orateur politique, et il y a des écarts énormes dans la capacité, hein, de raconter, de décrire, de proposer des solutions, de discuter un point de vue, d'interagir, d'intervenir, d'interrompre, de reprendre sur. Bien. Troisième point, et tous ces points ont été évoqués, hein, la programmation des apprentissages langagiers. Vous insistez sur la création et l'organisation de la prise de parole. Donc il y a un conditionnement, il y aurait un conditionnement. Moi, ce qui m'a toujours inquiété, c'est cette idée de séance spécifique de langage. Je vois bien ce qu'il y a derrière. Hein, ce qu'il y a derrière, c'est l'attention spécifique qu'un enseignant peut porter à ce qui se passe du côté de la production langagière. Pour autant, et d'autres auteurs le montrent bien, et Elisabeth Nonon en tête, pour moi, c'est ma référence. Hein, Elisabeth Nonon et Frédéric François, d'accord, hein, et Elisabeth le montre bien, ce qui se joue sans doute de plus intéressant dans le développement langagier et dans les apprentissages langagiers, c'est ce qui se fait en dehors d'activités qui seraient pointées langage, mais bien dans le continuum des domaines d'apprentissage proposés. Autrefois appelé hein, domaine d'activité, aujourd'hui domaine d'apprentissage, de ce point de vue-là, il n'y a pas de révolution. Donc création et organisation de la prise de parole et du temps de parole. Vous voyez que cette question du temps... Pour moi, elle est importante parce que, à travers le temps de parole, se joue une disposition à parler, une disposition à revenir sur son énoncé, une disposition à intégrer les énoncés des copains qui sont autour de moi et bien sûr de l'enseignant. Autre élément que je n'ai pas voulu surexposer en commençant par lui, mais bien sûr qui est la question de l'évaluation. Et pour moi, en tant que formateur, on est d'accord, hein, après, je prendrai la casquette du chercheur. Mais pour l'instant, en tant que formateur, l'évaluation, on voit bien qu'on est dans un moment de difficulté entre un positionnement du type Pérouse qui consiste à dire il faut surtout créer les conditions d'une pédagogie de l'écoute, hein, puisque c'est le terme qu'il a employé, pédagogie de l'écoute, ce qui suppose que j'ai une grande capacité à laisser parler, donc à me retirer du concert des interactions. Mais voyez bien le problème, et pas plus tard que hier, devant nous, il y a 27 moyennes sections. Si je me retire pour les laisser parler, il y a le feu au bout de 30 secondes. D'accord ? Hein, vous souriez, j'allais dire c'est normal, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la réalité de la classe nous invite à dire, bon, attention, pédagogie de l'écoute, oui, oui. Et peut-être qu'on a des gestes professionnels, de petits gestes à manipuler pour donner davantage du temps de parole et donc une posture de retrait. Pour autant, la posture, disons, de contrôle, de gestion et de régulation est omniprésente. Plus intéressant, parce que vous y avez insisté, la notion même d'observation. Et donc, du coup, des observables. C'est-à-dire, comment je fais pour observer alors que je suis impliqué ? Cette espèce de dédoublement du professionnel, d'ailleurs en classe comme en formation, est un enjeu fort de l'expertise. Je fais la classe, je fais parler, je donne à parler, et je fais parler, je donne à parler parce qu'on apprend quelque chose, et en même temps, je suis censé retenir, écouter ce qui se dit, et décider en quelques fractions de seconde si j'interviens, si je corrige, entre guillemets, si je reviens sur, ou si je laisse filer. D'accord ? Et c'est là, pour moi, un des enjeux et de la difficulté de la question de l'oral, c'est cet enjeu-là. Et vous voyez que j'ai tendance, et là, par contre, vous l'avez oublié, non pas à me dire qu'est-ce qu'il faut leur apprendre pour qu'ils apprennent à parler, ou alors qu'est-ce que je dois faire, hein, quelles sont les situations que je dois mettre en place, mais bien en quoi ma propre parole en tant qu'enseignant, ma propre utilisation des langages impacte, agit sur le développement langagier. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'une grande partie de ce qui se joue autour de l'enseignement de l'oral concerne au premier chef les manières de dire, hein, de l'enseignant lui-même. Et donc, du coup, de faire dire. Et je prendrai deux, trois exemples ensuite. Donc, pour avoir des observables, il faut que mon système évaluatif puisse les faire émerger. Je réponds tout de suite, enfin, pour moi c'est évident, et puisque j'ai travaillé avec Micheline Cellier, nous étions dans le... Hein, je dis nous étions parce que Micheline est partie à la retraite, mais nous étions dans le même SP. Quand nous avons commencé à réfléchir sur le lexique, et après elle a décidé de faire elle-même son propre ouvrage, moi je maintiens toujours en formation, il y a quelque chose de très très simple. Est-ce qu'un PES, est-ce qu'un jeune prof, à plus forte raison un prof expérimenté, est capable de dire, voilà, ce matin, dans telle situation d'enseignement, j'ai voulu faire fonctionner 3 mots, 5 mots, et qu'est-ce que signifie les faire fonctionner, c'est-à-dire les découvrir, les apprendre, les écrire ou pas, d'accord, les intégrer ou pas dans une syntaxe, dans un énoncé plus compliqué, les retrouver à un autre moment de la journée. Pour moi, l'enseignement du lexique, c'est ça. C'est véritablement constituer un capital de mots et constituer un capital de procédures que les élèves vont découvrir ou que les élèves vont pouvoir ensuite prolonger ou développer sur d'autres exemples. En voilà un exemple. La maîtresse hier, Gédéon Le Lion, a écrit une lettre qu'il envoie aux élèves. D'accord ? Elle tourne la lettre, elle dit aux enfants, voilà, ça c'est l'expéditeur. Et immédiatement, on entend dans la classe, expédition. D'accord ? Donc là, je me dis, là on a un point intéressant. Dans le moment même, l'enseignant a le choix de dire, allez, je passe. Parce que si je m'arrête pour bien peser ce qui se joue entre expédier une lettre, être l'expéditeur et faire une expédition, ma séance, elle risque de... Vous voyez, la digression temporelle, elle est là. Elle est là en attente. En même temps, il faut pouvoir enregistrer l'idée que le gamin qui a répondu à expédition, il a une conscience morphologique intéressante. Parce qu'il fait du lien entre expédier et expédition. D'accord ? C'est-à-dire, il sait ce qui se passe. Il y a le célèbre exemple, on demande à Louise qui a 3 ans où habitent les écureuils, et Louise répond dans les écuries. D'accord ? Donc, ce qui se passe là montre qu'on a un niveau de conscience du matériau lexical pour certains élèves qui en dit long sur ce que l'enseignant pourrait en tout cas, à coup sûr, entendre, doit entendre, et stocker pour en faire, sans doute, de manière différée, quelque chose. Donc, vous voyez, les observables, ils sont dans ce que j'appelle volontiers la hotline de l'évaluation. On n'évalue pas avant en préparant sa séance, où on n'évalue pas après pour voir ce que ça a donné, mais on évalue aussi tout le temps, en situation. D'accord ? Et notre capacité à prélever des observables relève surtout de notre capacité à inscrire les propos des enfants dans la trame de l'activité langagière de la séance. Donc les inscrire, ça signifie, soit je les pointe, j'arrête tout, ah bon, tu me dis expédition ? Et pourquoi ? Et hop, je pars. Soit j'enregistre, je ne dis rien, mais je garde en mémoire où j'écris. Ou alors je décide, et vous le proposez, et on voit bien qu'en formation aujourd'hui, c'est un paradigme puissant, vous décidez, par exemple, aujourd'hui, nous allons nous filmer. D'accord ? La séance que nous allons faire, quel que soit le domaine d'activité, eh bien, je vais la filmer. Et peut-être que demain, nous regarderons ce qui s'est passé quand nous avons, par exemple, mis en place notre potager. Et l'idée ne serait pas le lendemain de regarder ce qu'on a fait ou pas de bien concernant le potager, mais bien de s'interroger avec eux sur les mots qui ont circulé, le lexique, la syntaxe, la façon de parler. Vous voyez les petites ouvertures uniquement à partir du questionnaire qui peuvent agiter le travail. Si on rentre maintenant dans le matériau linguistique, ce vers quoi vous allez, c'est bien sûr aussi le langage oral entendu, et on a entendu les 3 termes, hein, lexique, compréhension, syntaxe. D'accord ? Alors, c'est étonnant parce que la personne qui a répondu comme ça, elle a mis compréhension entre lexique et syntaxe, hein, ça m'a interpellé, hein, c'est intéressant. On voit bien, et ça a été un des travers à un moment donné du programme, que de laisser entendre qu'on pouvait enseigner le lexique, j'allais dire hors sol. Il n'y a d'intérêt à enseigner des mots que parce qu'ils sont dans des énoncés, c'est-à-dire, bien sûr, constamment contextualisés. Et qu'est-ce que c'est que la contextualisation du lexique dans un énoncé ? C'est, bien sûr, la syntaxe, la manière dont on fait fonctionner. Hein, si vous connaissez des albums du type « Moi j'adore, maman déteste », si je dis « Moi j'adore, maman déteste », j'engage l'élève a complété l'énoncé et il va partir sur un prédicat, puisque maintenant il faut dire prédicat, on est bien d'accord, donc sur les fameux compléments d'objet, et en gros, il va pouvoir dire « moi, j'adore le Coca-Cola ». Fermez le banc. Mais si j'initie, alors voyons, aujourd'hui, on pourrait commencer en disant « maman déteste que ». Et on va s'apercevoir que des moyens et des grands vont sans aucun problème rentrer dans une phrase complexe « que je fasse pipi à côté de la cuvette ». D'accord ? Et on sait que ça fonctionne relativement bien de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est l'incitation et donc la proposition en amont qui va, parce qu'il y a une construction syntaxique particulière, générer derrière de la production langagière effective. Alors au milieu, bien évidemment, la compréhension. Alors au milieu, dessus, dessous, à côté, ce qui invite à... Et d'ailleurs, Elisabeth Nonon l'avait très clairement posé il y a plus de 20 ans. Où est le problème ? C'est langage, cognition, apprentissage. Voilà le triangle infernal. En quoi le langage de l'élève ou le langage proposé à l'élève lui permet de rentrer dans les apprentissages et me donne une indication sur son activité cognitive ou me permet de le faire avancer au plan cognitif. Voilà la grande affaire. Parce que lorsqu'on parle de pauvreté lexicale ou d'insécurité linguistique, puisque l'expression a fait les beaux jours de plusieurs tirades de Bentolila, de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce que c'est le lexique en termes de manque de mots ? Est-ce que c'est le lexique en termes de difficulté à inscrire justement des mots dans des énoncés construits, donc plutôt du côté de la syntaxe ? Est-ce que c'est un problème socioculturel ? Mes collègues de la Payade, on va dire une des zones un peu difficiles de Montpellier, me disent les élèves, par exemple, pour désigner ce que nous mettons au pied, utilisent très rapidement, presque automatiquement, des mots comme basket, voire Nike ou Adidas. Bon, on peut entendre ce qui se cache derrière, une pression médiatique, culturelle, socio-culturelle, familiale. Bien. Quand on essaie de monter au mont chaussures, pour les enseignantes, c'est un boulot. C'est-à-dire que la construction de l'hyperonyme, pour employer les termes hyper techniques, le générique pour définir ce que nous mettons au pied, ça me paraît un enseignement capital. D'accord ? Par contre, on peut décider que soulier, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que le mot vieillit. Et vous voyez comment l'usage du lexique dans la langue permet de dire, bon, où doit se situer exactement mon enseignement ? Je ne peux pas les laisser dans l'inconfort, avec le trait d'union entre le préfixe et le mot confort, dans l'inconfort de Adidas, Nike et basket ou tennis ou pompe, on est bien d'accord. Je dois au moins installer avec eux un niveau super ordonnateur. Quoi. Voilà, c'est ça un générique. Ça me permet de catégoriser. Et donc je viens sur du cognitif. Mais je peux aussi les amener vers talon aiguille ou bottine. D'accord ? C'est-à-dire après rentrer dans des choses qui vont être beaucoup plus spécifiques. Et ça, c'était au cœur des problématiques que nous avions soulevées avec Micheline sur, finalement, c'est quoi la pauvreté lexicale ? C'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif en situation, et c'est un qualitatif qu'il va falloir surtout catégoriser. Voilà où on en est. Alors je pourrais prendre un exemple plus simple, le mot arbre. Regardez comment pour certains gamins, le niveau perceptif est tel que du coup, ils vont assimiler arbre à sapin, et si possible à sapin de Noël, parce que c'est encore au plus porteur. Du coup, tout arbre pour eux est un sapin. Et là, cognitif et lexique se mêlent étroitement et nécessitent vraiment de faire la part des choses. D'où l'idée, alors je vais au troisième point, des fameux écarts à la norme. C'est-à-dire ce qui nous embête quelque part. Pourquoi me parle-t-il si peu ? Pourquoi ont-ils si peu de mots ? D'accord ? Pourquoi est-ce que je voudrais les amener à avoir tel ou tel type de mots ou tel type de structure ? Regardez, à l'inverse, la capacité des élèves de maternelle à utiliser des connecteurs du type « en fait ». Ils commencent leur phrase par « en fait ». Je suis prêt à parier qu'aucun de nous dans cette salle n'apprend aux élèves ou ne fait circuler en formation l'idée que nous devrions absolument enseigner les connecteurs du type « en fait ». Donc d'où vient cet apprentissage, cette dimension mimétique de l'utilisation de certains marqueurs linguistiques. Voilà. Là, il y a une petite énigme. Hein. Si vous pouvez la résoudre, vous me le dites. Donc, on est en insécurité professionnelle et on est aussi, j'allais dire, du côté de ce que dans le modèle des gestes professionnels, nous avons appelé les logiques profondes. C'est-à-dire ce qu'il faut interroger lorsque vous êtes en situation de formation, mais y compris pour vous-même, lorsque vous décidez d'activer une formation, quels sont les rapports que nous entretenons à ces objets? Parce qu'après tout, on dit, la maternelle n'arrive pas à caler correctement l'oral. Mais sommes-nous capables, par exemple, de caler l'écrit, l'entrée dans l'écrit? Moi, j'ai participé à ma modeste mesure, à l'émergence progressive de la prise en compte des premiers essais d'écriture de mots à l'école maternelle. Ça y est, c'est dans les programmes. Et on voit bien que les enseignants qui jouent le jeu découvrent que c'est extrêmement productif. Et c'est d'autant plus productif qu'il n'y a pas d'écrit possible sans oral. Et qu'au cœur même des séances que vous menez sur les micro-ateliers d'écriture, vous êtes en train de faire de l'oral à un super niveau. Pourquoi ? Parce qu'on fait de l'écrit pour l'oral, de l'oral dans l'écrit. On aide les enfants à comprendre que pour apprendre à écrire, on n'apprend pas tout seul, on apprend d'abord avec les copains et qu'ensuite on va petit à petit autonomiser certaines procédures pour pouvoir après rentrer dans l'apprentissage plus systématique du lire-écrire. Donc, il y a la relative insécurité, c'est une insécurité finalement généralisée à toutes les composantes des apprentissages. Je ne parle pas, bien sûr, de la numération, ce n'est pas mon terrain, mais je vois bien, et plusieurs d'entre vous aviez pointé la chose, que du côté du parler les nombres, parler les chiffres, il y aurait aussi beaucoup à dire.